et du Saint-Esprit. Alors si quelqu'un de peu habitué à l'Église, à l'Évangile, rentrait aujourd'hui et écoutait cet Évangile, je pense que ça lui semblerait terriblement archaïque, plein de superstitions, plein de naïveté. Et pourtant, l'Évangile, sans qu'on puisse recourir à une symbolique qui nous tirerait d'affaire, affirme avec force, et c'est pas le seul passage de l'Évangile, la réalité des personnes démoniaques, donc possédées, et affirme la réalité du démon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne possédée ? Hein, si on peut donner une définition qui irait aussi bien aux gens de l'Église du départ que nous autres modernes. Une personne possédée, on pourrait dire, c'est une personne qui n'a plus de volonté. Et c'est surtout à ne pas confondre avec, par exemple, Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». On n'a pas affaire ici au même phénomène. L'Église s'est penchée de façon très précise sur la notion de volonté, puisqu'on a eu à un moment de l'histoire de l'Église une hérésie qui s'appelait le monothélisme, qui disait que dans le Christ, il ne pouvait pas y avoir deux volontés, il n'y en avait qu'une seule, et bien évidemment c'était la volonté de Dieu qui l'avait emportée sur la volonté humaine. Et ce que les pères de l'Église ont répondu, c'est que la volonté, c'est un attribut de la nature. Et comme le Christ est vrai Dieu et vrai homme, alors il a une volonté humaine et une volonté divine. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais en fait ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque instant, sa volonté humaine était en parfaite adéquation avec la volonté divine. Hein, vous pourrez relire sous cet angle-là l'épisode du jardin de Gethsémani. On a ici, quelque part, une forme de dialogue des volontés, c'est ce que dit saint Maxime le Confesseur, qui a été le père de l'Église, on va dire, le plus en pointe dans ce combat. Alors si le démon existe, on peut se poser la question, puis on va essayer d'aller voir ce que nous disent les Écritures et ce que nous dit la tradition de l'Église. C'est quoi ces démons? C'est quoi le diable et toutes ces choses-là? Au chapitre 3 de la Genèse, le texte de Moïse nous dit « Et le serpent était rusé, plus que toute bête du champ que fit le Seigneur Dieu. Il dit à la femme, « N'est-ce pas que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et donc le texte nous dit, effectivement, nous avons un serpent, il le présente sous forme de serpent, qui est révolté. Mais alors, d'où vient ce serpent? D'où vient cette révolte? Révolte qui, visiblement, a un impact sur nous, puisque dans sa révolte, cette créature veut nous faire chuter. Alors, le moment où se passe cette scène, c'est le sixième jour de la création. Donc, il s'est passé quelque chose avant, entre le premier et sixième jour. Saint Cyril d'Alexandrie nous dit « Si certains anges ont bondi hors de leur condition et ont comme étiré le cou sous le joug, ils ont été châtiés et sont tombés, ayant justement glissé hors de la cité d'en haut. Ils ont égaré certains de ceux qui étaient sur la terre, tentant de ravir pour eux-mêmes la gloire de Dieu. L'un d'eux, le premier, était Satan. » Donc c'est quelque chose dans l'enseignement de l'Église. Il y a eu dans le monde angélique une révolte. Et cette révolte a conduit un certain nombre d'anges à être chassés du paradis. Et ce qu'on appelle les démons, en fait, ce sont des anges rebelles. Des anges qui ont été créés pour être au service de Dieu, pour être au service de la création, et qui finalement se sont détournés de leur fonction originelle, et qui n'ont pour autre objet, finalement, que d'aller contre la volonté divine. Alors, quand a chuté Satan? Ça, c'est une grande question patristique. Alors, le prophète Daniel, que vous connaissez peut-être, il a vécu très vieux, il a vécu jusqu'à 100 ans. Et dans sa centième année, Cyrus, l'empereur perse, l'emporte contre les Babyloniens qui l'avaient emporté contre les Juifs et qui les avaient mis en exil, ce qu'on appelle l'exil de Babylone. dont vous retrouvez mention dans la généalogie du Christ. Et Daniel fait savoir à Cyrus que Isaïe, un siècle plus tôt, a écrit une prophétie qui le concerne. Et dans cette prophétie, il lui fait la demande, il devra libérer les Juifs de l'exil de Babylone et permettre la reconstruction du second temple, temple dans lequel le Christ a prêché. Alors le passage où Dieu parle à Cyrus est très intéressant, et au verset 18, Dieu par la bouche d'Isaïe dit « Voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel, lui qui est Dieu, et qui a fait la terre, qui l'a formée et affermie. Il ne l'a pas créée afin d'être un chaos, mais il l'a façonnée pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » Et le chaos en question, c'est en hébreu « tohu ». Et donc Dieu dans Isaïe dit que « il n'a pas créé la terre, tohu ». Jérémie nous dit un peu la même chose dans une de ses prophéties. Il dit « Je regarde la terre, elle est informe et vide. Je regarde le ciel, il n'y a plus de lumière. » Et là, dans l'hébreu, c'est « tohu » et « vohu ». Alors, vous connaissez peut-être le début de la Bible, le deuxième verset de la Genèse, où on nous dit « La terre était tohu et vohu ». Donc, ce qu'on sait par les prophètes, c'est que Dieu n'a pas créé la terre tohu et vohu, et pourtant, au deuxième verset de la Genèse, elle est tohu et vohu. Donc, entre le premier et le deuxième verset, s'est passé quelque chose qui a rendu la terre tohu et vohu. Et si vous regardez ce deuxième verset, on nous dit que l'obscurité était sur l'abîme. En hébreu, c'est le rocher était sur le théum. Mais si vous lisez attentivement le texte, la lumière arrive après. Il crée la lumière un peu plus tard au niveau des versets. Donc cette obscurité, ça n'est pas une absence de lumière. C'est dur à conceptualiser pour nous, mais cette obscurité n'est pas une absence de lumière. C'est autre chose qui a un nom, rocher. Et ce mot théum, l'abîme, en grec, c'est devenu abyssus, qui a probablement donné, dans l'évolution des langues, l'abysse pour nous. Si vous lisez l'Apocalypse de Jean, à chaque fois qu'il fait référence à l'abysse, à chaque fois il dit dans cet abysse, qu'est-ce que nous avons ? Les démons. Je vous donne un extrait. 11:7 de l'Apocalypse. Mais lorsqu'il aura achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abysse, de l'abîme, combattra contre eux, elle les vaincra et elle les tuera. Alors, le 7e concile œcuménique s'est posé la question de quand furent créés les anges, mais n'y a pas répondu. Les pères sont divisés sur quand furent créés les anges et même leur nature. Et leur nature fait finalement un impact sur que sont les démons. Tertullien, Origène et Clément d'Alexandrie les voient avec un corps très subtil, donc quand même quelque part un peu dans la matière. Basile, Athanase, Cyril, Grégoire de Nice et Chrysostome les voient totalement spirituels. La seule trace biblique qu'on ait de leur révolte, c'est dans la deuxième lettre de Pierre qui dit « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme, toujours le même lieu, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. » Donc il n'y a aucun consensus concernant les anges, à part peut-être leur classification qui a été faite par Denis l'Aéropagite dans ses écrits. Le livre de Job nous donne un indice sur ce moment particulier, puisque vers la fin du livre de Job, Dieu s'adresse à Job de façon un petit peu du ton de la réprimande, et il lui dit « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde ? Déclare-le puisque ta science est si profonde. » Qui en a fixé les mesures, le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle? Ça nous renvoie au Christ. Quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Beaucoup de pères de l'Église disent que ces fils de Dieu, à ce moment-là, ce sont les anges. Donc vous avez un moment où tous les anges était avec Dieu. Puis il se passe un moment où finalement on voit qu'il y a une partie qui s'écarte. Les deux passages de l'Écriture qui donnent finalement le plus d'informations sur ce moment, sur cette trahison, sur cette rébellion, ce sont deux prophéties, une d'Ézéchiel et une d'Isaïe, qui ont exactement le même principe. Le prophète s'adresse d'abord à un souverain qui mène une guerre contre le royaume d'Israël. Et puis, dans sa façon dont il s'adresse à lui, on voit bien que finalement, il s'adresse à la puissance qui est derrière lui, à la puissance qui anime ce souverain. Ézéchiel, par exemple, au chapitre 28, dit contre le souverain de Tyr. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. » Donc on voit que ça ne concerne plus du tout le souverain de Tyr. « Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes les espèces, rubis, topazes, diamants, chrysolites, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé, ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint. » Oint, c'est... il est presque messie. Hein. Le messie, c'est celui qui a l'onction. « Sur ma montagne sainte, c'est là que tu étais, tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans ta conduite. Depuis le jour où tu as créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur, alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne, et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume et je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous et tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont frappés de stupeur car tu es devenu un objet d'épouvante. » Le prophète Isaïe au chapitre 14, lui s'adresse au souverain de Babylone et c'est un peu le même principe, il lui dit « Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes, lutte l'instrument de musique. Les vers sont maintenant sur ta couche, ta vermine, la vermine est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Ça, en latin, c'est Lucifer, ici dans le texte. « Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre ? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » J'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'Assemblée des dieux. Aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. » Donc voilà, de toutes ces traces bibliques et patristiques, on peut finalement retracer la probable histoire suivante. Au début, tous les anges sont avec Dieu dans la création, puisque disent les pères de l'Église, Dieu annonce aux anges le pourquoi de la création. Et le pourquoi de la création, c'est nous, c'est l'homme. Et là, une partie des anges refuse de servir l'homme en tant que co-créateur et co-gestionnaire du monde avec Dieu. Une partie des anges le refuse. Se passe une bataille terrible, une guerre terrible dans le monde angélique. Une partie des anges rebelles est chassée dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Et finalement, l'homme devient l'enjeu de cette lutte vertigineuse qui existe depuis la création du monde. Et si vous regardez, à chaque fois, le texte parle d'une chute qui a lieu depuis un endroit élevé. Et on peut se rendre compte dans l'histoire que tous les cultes qui étaient finalement un peu sataniques avec des sacrifices humains, ce genre de choses, recréent des montagnes artificielles. Vous avez les pyramides, les ziggourats, ce genre de choses. Hein, c'est toujours animé par des gens qui veulent créer une forme de montagne et être le maître en haut de cette montagne. Alors je reviens à une personne possédée n'a plus de volonté. Ça nous amène finalement à nous demander à chaque fois pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on pense les choses. Quand je pense quelque chose, est-ce que c'est vraiment moi qui le pense ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pense pour moi un peu de l'extérieur et qu'on me donne à penser? Est-ce que c'est moi qui veux vraiment telle ou telle chose? Est-ce que c'est moi ontologiquement? Quelqu'un récemment a fait une sorte de différenciation entre les gens en disant il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Cette histoire biblique et patristique nous apprend que nul n'est personne, puisque depuis des millénaires et des millénaires, il y a des créatures qui n'ont pas de cesse que d'obtenir notre âme. Même l'âme de la personne qui sera la plus insignifiante pour celle qui a utilisé cette dichotomie simpliste. Et alors je disais au tout début, démon, Satan, possession, tout ça, ça a l'air très archaïque. Alors c'est repris avec plus ou moins de succès par des cinéastes qui font des films à sensation, plus ou moins réussis. Mais si vous regardez, ne serait-ce que le 20e siècle, alors le 21e, on n'a pas assez de recul, en plus on est en plein dedans, mais on va dire le 20e, c'est, si vous le regardez théologiquement, patristiquement, bibliquement, c'est un siècle éminemment satanique. Si vous regardez tout ce qui s'est passé dans ce siècle-là, c'est éminemment satanique. Et si vous regardez de près, toujours sous le même angle, la vie des gens qui ont contribué plus que d'autres à rendre ce siècle éminemment satanique, vous ferez des découvertes très intéressantes. Je vais prendre les deux plus emblématiques parmi d'autres, qui sont Staline et Hitler. Staline, c'est un ancien séminariste, c'est un géorgien, il était destiné à devenir prêtre orthodoxe. Et puis, il quitte le séminaire et il fait tout ce qu'on connaît pour ceux qui se sont intéressés à cette partie de l'histoire du monde tragique. Après la perestroïka et la chute du communisme, les archives ont été beaucoup plus accessibles qu'avant et on a trouvé des choses étonnantes. Une bonne vingtaine de grimoires de magie noire annotés de la main de Staline en personne, qui visiblement passait plus de temps à étudier ce genre de littérature que les écrits de Marx ou Engels. Intéressant à noter. Il y a exactement le même genre de phénomène pour Hitler et pour le nazisme. Si à l'école on vous a parlé d'un matérialisme athée qui n'avait pour autre objectif que de lutter contre les communistes et contre les juifs, alors oubliez ça, parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité historique. Hitler, de la même façon, était fasciné par tout ce qui était ésotérique, il y avait des communautés occultes, et finalement, si on regarde ce qui s'est passé vis-à-vis des juifs, Hitler a fait une contre-élection d'un autre peuple, en utilisant finalement un peu le même paradigme basé sur le sang, mais il a voulu élire lui-même un autre peuple. Et si vous vous penchez effectivement toujours sur le côté religieux de ce phénomène historique, vous apprendrez avec intérêt qu'il avait demandé à ce que dans les églises la Bible soit remplacée par Mein Kampf, et il avait le plus profond mépris pour tout ce qui était chrétien, et nous aurions probablement été les suivants sur sa liste funeste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous ne croyez pas au diable et que vous avez une approche symbolique, prenez le diable au sérieux, puisque ceux qui le prennent au sérieux ont un impact immense sur l'histoire. A priori, les gens qui accèdent au poste de pouvoir n'ont jamais le profil d'un Staline ou d'un Hitler. C'est rarissime. Hitler, c'était quelqu'un qui était en voie de clochardisation une quinzaine d'années avant de prendre le pouvoir et de devenir chancelier. Vous connaissez beaucoup de gens qui passent de SDF à chancelier dans un des plus grands pays d'Europe. Il y a des forces historiques, il y a des forces qui dépassent les gens qui les incarnent, mais qui donnent finalement corps à toutes ces choses qui émanent des textes et de la théologie. Il y a toute une partie de la création qui ne veut pas être dans la création, dans la façon dont Dieu l'a voulu. Et après, chacun d'entre nous, on est tiraillé entre les deux bouts de la corde. Tu veux aller dans le sens de Dieu ou tu veux pas aller dans le sens de Dieu ? Finalement, au bout d'un moment, c'est tragiquement binaire. C'est tragiquement binaire. Le Christ, dans l'Évangile, quand il chasse les démons des personnes, il ne faut pas le lire avec un angle moderne, il ne chasse pas des problèmes psychologiques ou ce genre de choses. L'Évangile, c'est le sommet de la révélation de ce que Dieu a à nous dire. Le Nouveau Testament, c'est le sommet de la révélation de tout ce qui avait été fait auparavant depuis la Torah de Moïse. Le dernier livre du Nouveau Testament, comment ça s'appelle ? Apocalypse. Ça veut dire quoi en français ? Dévoilement. Tout est là, tout sera vu. On verra tout, il n'y aura plus de voile, le monde ne sera plus le voile. Et quand on verra ça, on verra à quel point on a collaboré avec Dieu, ou en allant dans le sens de son plan, ou si on a fait tout le contraire. Pourquoi faisons-nous les choses ? À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut se demander, est-ce que le Christ veut que je fasse ça au moment où je le fais ? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça ? Qu'est-ce que le Christ aurait dit dans telle situation ? Qu'est-ce qu'il aurait conseillé ? Qu'est-ce qu'il aurait condamné ? Qu'est-ce qu'il aurait aimé ? Qu'est-ce qu'il aurait ému ? Dans chaque situation. Et tout n'est pas christique. Et alors les choses comme Hitler, Staline, tout ça, ça peut nous paraître, quand ça nous arrive dessus, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? La pensée la plus satanique qu'on puisse avoir, me semble-t-il, c'est « Dieu ne me pardonnera jamais ça hein, », le truc que je viens de faire. « Dieu ne me pardonnera jamais ça ». Ça, c'est la phrase la plus satanique qui peut vous arriver dans la tête. C'est faux. Dieu pardonne tout ce dont vous vous repentez. Tout. Prenez le diable au sérieux, mais prenez Dieu au sérieux, parce que de toute façon, sur la croix, le Christ a déjà triomphé. Donc de toute façon, les échos de cette lutte qui a commencé dès le premier verset de la Genèse vont nous toucher dans notre vie. Il y a des choses qui s'annoncent là devant nous qui sont très dures, qui viennent. Mais souvenez-vous toujours au moment des tribulations, le Christ sur la croix a déjà gagné. À lui seul la gloire dans les siècles des siècles. Amen.